Histoire et gastronomie. La chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
François Rabelais ou la langue au service de la gastronomie. François Rabelais fut un grand humaniste de la Renaissance et un des plus grands prosateurs de notre langue. Né en 1483 au manoir de la Devinière près de Chinon, qui est toujours debout, il fut successivement moine, médecin, professeur d'anatomie et écrivain. Il parlait plusieurs langues européennes et anciennes, le latin, le grec et même l'hébreu. Sa liberté d'esprit lui valut d'être suspecté d'hérésie et d'affinité pour le protestantisme, sans preuve certaine cependant. Sa langue reste superbe 4 siècles et demi plus tard et son inventivité remarquable. Il inventa de nombreux néologismes, dont certains seulement ont une postérité, mais toujours savoureux. François Rabelais inventa, sinon le mot de gastronomie, que l'on doit à Berchoux en 1801, du moins le concept. Il nous parle d'une curieuse peuplade, les gastrolâtres, qui avaient coutume de ne rien faire, de ne point travailler, craignant le ventre offensé et en maigrir. Ces gastrolâtres tenaient Gaster pour leur grand dieu, le servaient, aimaient sur toute chose, honoraient comme leur dieu. Ils sacrifiaient à Gaster, leur dieu ventripotent représenté par une statue grotesque appelée Mandus, une liste de produits et de plats à prêter spécialement, dont la liste tient sur plusieurs pages et qu'il lui en fournait par la bouche. C'est un véritable catalogue de tout ce qui se pouvait manger à l'époque. Si l'on trouve des plats traditionnels comme la carbonade, de 6 sortes, les hochepots, les boudins, les fricandeaux, les andouillettes caparaçonnées de moutarde, on trouve toute une série de gibiers, certains classiques comme les hures de sanglier, les faisans, les ortolans, d'autres qui nous prouvent que l'on mangeait tout ce qui pouvait être consommé, comme les porcs épics et les oiseaux qui peuplent nos régions, du butor à l'aigrette en passant par les tadornes, les courlis, les pluviers, les flamands, etc. Comme la langue n'était pas encore fixée et intermédiaire entre le médiéval et le classique, Rabelais nous parle de lapin et de lapro, mais aussi de conil, vieux mot médiéval pour le lapin, qui ne disparut qu'au XVIIe siècle sous l'effet de la pudibonderie. Fut une liste non moins copieuse de nourriture que les gastrolâtres sacrifiaient à leur dieu ventripotent, est-ce jour maigre entre lardés. Parmi tous les poissons de mer et de rivière, on a la surprise de trouver le caviar, ancêtre de notre caviar moderne, car l'esturgeon peuplait alors les estuaires de nos fleuves et même la Seine, la baleine, les tortues, sans oublier les homards, langoustes et les lavarets. Des plats provinciaux traditionnels comme le stockfish, ancêtre du stockfish niçois, sont également rapportés. C'est un véritable catalogue exhaustif de toutes les nourritures disponibles de l'époque et elles étaient nombreuses. La geste des héros de Rabelais est ponctuée par des événements gastronomiques. Gargamel accoucha de son fils Gargantua après avoir mangé grand planté de tripes, de bœuf gras, et ce par l'oreille. Gargantua, après avoir relaté les naissances miraculeuses de Bacchus, né de la cuisse de Jupiter, de Minerve, qui naquit du cerveau par l'oreille de Jupiter, Rabelais nous dit « Je ne trouve rien d'écrit dans les Bibles saintes qui soit contre cela. Pour grâce, ne vous emberlucoquez point jamais vos esprits de ces vaines pensées, car je vous dis qu'à Dieu, rien n'est impossible. » Cela explique sans doute les doutes des censeurs sur la religion de Rabelais, d'autant qu'il aggrave son cas en faisant manger à Gargantua 6 pèlerins au sein d'une salade de laitue qui faillirent être emmenés dans le gouffre de son estomac suite à une grande rasade de vin, puis finirent par sortir de l'oreille de ses dents en s'aidant de leur bourdon. Ou encore quand il nous dit, dans le quart-livre, pourquoi les moines sont volontiers en cuisine. La guerre picrocoline qui opposa Gargantua à Picrocole débuta par une affaire de fouasse, fougasse en langeon français moderne, sur le marché de Lernay près de Chinon. Mais la plus étrange des inventions de Rabelais concerne les andouilles. De nombreuses légendes rapportent l'intérêt de Rabelais pour les andouilles, et la confrérie des Tastandouilles du Val d'Ajol dans les Vosges se réclame encore de lui. Panurge entra en guerre contre les andouilles, ces petites bêtes apprivoisées, gravissant et montant sans mot sonner sur un haut arbre. Lors de l'embuscade tendue à Pantagruel par les andouilles, un gros bataillon d'andouilles puissantes et gigantales andouilles était flanqué d'un grand nombre de boudins sylvactiques, de godivots massifs et de saucissons à cheval, tous de belles tailles, gens insulaires, bandouillés et farouches. C'est une des rares personnalisations de l'alimentation dans notre littérature, préfigurant la bataille des jeux de cartes d'un autre monde de Granville, reprise par Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Les voyages de Panurge sont le témoin onirique d'un courant surréaliste et contemporain des portraits composés de Giuseppe Archimboldo, qui peignait à la cour de Rodolphe II de Habsbourg quelques années plus tard, des portraits composés à partir de fruits, légumes, fleurs, poissons ou oiseaux. Notre mémoire de l'œuvre de Rabelais reste cependant surtout marquée par les illustrations superbes et oniriques de Gustave Doré et d'Alfred Robida au XIXe siècle. L'œuvre de Rabelais est donc passionnante à plus d'un titre sur le plan gastronomique. Elle nous dresse un catalogue exhaustif des produits et des façons d'accommoder les plats. Ainsi, les œufs que l'on consomme frits, perdus, suffoqués, étouffés, traînés par les cendres ou jetés dans la cheminée, ou les andouillettes caparaçonnées de moutarde. Elle n'est pas dépourvue de critiques et de charges contre les gastrolâtres, qui adorent leur ventre, mais Rabelais chante aussi la science de gueule et la dive bouteille. Enfin et surtout, l'œuvre de Rabelais est une satire féroce de la société de son temps qui s'exerce contre les moines, mais aussi les abus des nobles et l'étouffoir des dogmes étroits. Son pays de cocagne est l'abbaye de Thélème et il préfère le carnaval au carême, mais il faut savoir que la truculence des propos était aussi un masque pour éviter la répression de la censure ecclésiastique, toujours virulente, malgré les hautes protections dont bénéficiait François Rabelais. Comme disait Rabelais, il faut rompre l'os pour trouver la substantifique moelle. Rabelais reste vivant dans notre langue par l'adjectif rabelaisien qui témoigne de l'amour de la vie et que ne renierait pas un gastronome.